Il est 21h à Conakry et à Bamako, 22h à Yaoundé. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Nouveau constat de l'OMS, l'épidémie d'Ebola a un grave impact sur les services de santé qui détériorent les soins pour les autres maladies. Nous serons au Cameroun pour notre dossier.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés en divagation.
Suite aux attaques de Boko Haram, le Cameroun a annoncé vouloir recruter 20 000 soldats et policiers supplémentaires. Au Mali, la médiation a proposé un projet d'accord pour la paix et la réconciliation. Enfin, Transparency International a publié ce matin son indice annuel de perception de la corruption. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. On commence avec du sport et du football notamment, avec la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à Malabo, en Guinée équatoriale. Le groupe C s'annonce déjà comme le groupe de la mort. Ce groupe C est composé du Ghana, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie. Et puis le groupe D, c'est la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Mali. Le groupe B, c'est la Zambie, la RD Congo, le Cap-Vert et la Tunisie. Et le groupe A, c'est la Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, le Burkina Faso. Et puis la Cour pénale internationale a donné une semaine au procureur pour trouver des preuves ou abandonner les poursuites contre le président kényan Uhuru Kenyatta. Le procès a été reporté à plusieurs reprises et le tribunal basé à La Haye a publié un communiqué ce mercredi indiquant que tarder davantage serait contraire aux intérêts de la justice. Dans l'est de la République du Congo, l'armée congolaise aurait repris 4 villages aux milices Raia Mutomboki, les précisions de Nicolas Pinot.
Oui, selon l'administrateur du territoire de Chabunda, les FRDC ont réussi à déloger les miliciens de 4 villages qu'ils occupaient depuis plusieurs mois dans le sud Kivu. Interrogé par l'agence France Presse, Daniel Eloko Nsala affirme que l'armée congolaise a notamment repris Nyalubemba. Les villages libérés, eux, sont situés dans le territoire de Chabunda, à environ 65 km au sud-est de Bukavu, la capitale provinciale du sud Kivu. Les Raia Mutomboki, citoyens en colère en Swahili, sont apparus en 2005 comme milices d'autodéfense dans le territoire de Chabunda contre les rebelles Hutu-Rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Fin 2013, un rapport du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité notait qu'avec l'amenuisement de la menace des FDLR, de nombreuses factions des Raia Mutomboki se retournent contre les populations locales, se battent entre elles ou se muent en gangs purement criminels. Selon une récente étude de l'International Peace Information Service, des Raia Mutomboki, tout comme des militaires des FRDC, contrôlent toujours plusieurs mines d'or de Chabunda.
Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne annonce le maintien de son aide à la réforme de la police en RDC, coopération réaffirmée en dépit des graves bavures ayant terni l'action des forces de l'ordre à Kinshasa. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC souligne que l'objectif est justement la mise en place d'une police républicaine, professionnelle et respectueuse des droits de l'homme. Rappelons qu'un rapport de l'ONU publié en octobre accuse des policiers d'avoir tué au moins 41 personnes lors de l'opération Likofi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le secrétaire d'État américain John Kerry estime qu'il faudra des années pour venir à bout des combattants de l'État islamique. Toutefois, il a assuré que les frappes aériennes de la coalition ont empêché les insurgés de lancer de nouvelles attaques. Pour John Kerry, les islamistes sont avertis. Les frappes aériennes sous commandement américain vont continuer si nécessaire, tandis que la formation et l'assistance aux forces de sécurité irakiennes vont gagner en ampleur. Le chef de la diplomatie américaine s'exprimait aujourd'hui à Bruxelles à l'ouverture de la conférence des ministres des Affaires étrangères de 60 pays partenaires de la coalition. Des élections anticipées vont se tenir en Israël le 17 mars 2015. La Knesset a adopté cette date aujourd'hui, un jour après l'annonce par le Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il dissoudrait le gouvernement. M. Netanyahou a pris la décision après le limogeage de 2 membres influents de son cabinet. Selon les sondages, le Likoud, le parti du Premier ministre, a toutes les chances de remporter le scrutin. Et l'Organisation mondiale de la santé est pointée du doigt dans la lutte contre Ebola. Peter Piot, l'un des microbiologistes belges qui a découvert le virus, estime que l'OMS l'OMS a tergiversé avant de reconnaître la gravité de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Même si l'on pouvait s'attendre à un certain délai avant la confirmation de l'épidémie, il n'y a aucune excuse aux 5 mois supplémentaires qu'il a fallu à l'OMS pour déclarer l'état d'urgence, a-t-il dit. Vous écoutez la VO Afrique, place maintenant à Sahel Plus.
Merci beaucoup Jean-Roger. Merci. Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission avec l'épidémie Ebola. La propagation de la maladie a eu un impact néfaste sur la prestation des services de santé pour les personnes souffrant d'autres maladies dans les pays gravement touchés par le virus. C'est le constat dressé par l'Organisation mondiale de la santé. Compte rendu par Lisa Schlein, correspondante de la VOA à Genève, présenté par Bagasigoura.
Selon l'OMS, l'une des causes profondes de la propagation rapide du virus Ebola en Afrique de l'Ouest est la faiblesse des systèmes de santé des 3 pays fortement infectés. Le virus Ebola a tué environ 7000 personnes, mais le coordinateur des systèmes de santé de l'OMS, Gerard Smets, soutient que la mort de nombreuses autres personnes qui souffraient du paludisme et d'autres maladies chroniques peut probablement être liée à l'épidémie. Il affirme qu'Ebola a endommagé la prestation des services généraux en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Par exemple, il note que les travailleurs de la santé qui s'occupent des patients d'Ebola ne sont plus disponibles pour travailler dans les centres de soins de santé ordinaires. Il soutient aussi qu'Ebola a perturbé les services importants tels que les programmes de vaccination.
For example, pregnant women.
Par exemple, les femmes enceintes n'ont pas accès aux soins dont elles ont besoin. Elles n'ont pas accès aux centres de santé, tout simplement parce que ces centres sont fermés, parce que nous n'avons plus de personnel dans ces centres de santé. En Guinée, par exemple, les consultations générales et le taux d'hospitalisation ont baissé de 50%.
Dr. Smith fait remarquer que les systèmes de santé dans ces 3 pays étaient déjà mal en point bien avant l'épidémie d'Ebola. Par exemple, avant Ebola, la Sierra Leone comptait 0,2 médecins pour 10 000 habitants contre 2,5 dans le reste de l'Afrique et 14 médecins pour 10 000 habitants dans le reste du monde.
Nous avons clairement besoin de nous concentrer sur la lutte contre Ebola. Nous avons clairement besoin de nous concentrer sur la reconstruction des services généraux, mais nous avons aussi besoin de nous concentrer pour bâtir un système résilient, à le rendre plus fort pour résister aux futures épidémies ou aux catastrophes à l'avenir.
L'Organisation mondiale de la santé organise une réunion la semaine prochaine à Genève, réunion axée sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays touchés. Les grandes institutions financières, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, participeront de même que les ministres de la Santé, des Finances du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et sur le 99.4 FM à Mamou, en Guinée, sur la radio Bolivar. Direction le Cameroun pour notre dossier. Suite aux attaques de Boko Haram, le Cameroun a annoncé son intention de vouloir recruter plus de 20 000 soldats et policiers supplémentaires pour lutter contre le groupe terroriste. Les autorités sont inquiètes des rapports récents qui affirment que les salafistes nigérians recrutent de jeunes Camerounais. Reportage du correspondant du service anglophone de la Voix de l'Amérique, Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, relaté par Nathalie Barge.
Le sénateur Paul Aman, originaire du nord du Cameroun, a confirmé à la Voix de l'Amérique que les salafistes recrutent des jeunes près de la frontière nigériane.
That was something that we witnessed with our eyes in Marwa.
Nous avons vu cela à Marwa. La population nous a dit rencontrer des gens en ville qui leur étaient totalement étrangers. Lorsque vous constatez qu'une partie du pays est dans une situation très délicate, mieux vaut gérer la prévention et les faits plutôt que les conséquences. Un député du nord du Cameroun, Sali Derou, a déclaré la semaine dernière que Boko Haram avait saisi du bétail d'éleveurs camerounais le long de la frontière avec les États nigérians de Borno et de l'Adamawa.
Ils ont tué tous les bergers qui étaient partis avec les bœufs là-bas et les bœufs se sont retrouvés en divagation. Et personne ne pouvait aller là-bas pour aller récupérer un seul bœuf. Et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Selon le ministre de l'administration territoriale, René-Emmanuel Sadi, la menace posée par Boko Haram a conduit de nombreuses personnes à fuir des zones frontalières.
C'est la région de l'extrême nord qui paye le plus lourd tribut. Plusieurs écoles sont restées fermées depuis la rentrée scolaire. Nombre de nos compatriotes ont abandonné leurs champs de culture ainsi que leurs pâturages.
L'activité économique du nord du Cameroun est complètement paralysée à cause des salafistes nigérians, ajoute le ministre.
Le prix du carburant frelaté importé du Nigeria et très utilisé localement est régulièrement en hausse avec ses répercussions sur l'ensemble de la chaîne économique. Divers services publics, parapublics, privés, ainsi que des entreprises commerciales sont paralysés par les membres de la secte Boko Haram. Les échanges commerciaux avec le Nigeria ont nettement reculé.
Un constat confirmé par le ministre de la Défense, Edgar Alain Mebengo, soulignant que les atrocités commises par le groupe terroriste ont conduit plus de 30 000 villageois à s'éloigner de la frontière.
Boko Haram mène des actions ponctuelles commando d'assassinat par égorgement public de certains notables et dignitaires. Ces assassinats vise à punir les honnêtes citoyens convaincus de coopérer avec l'administration et vise également à accentuer dans toutes les localités frontalières le climat de psychose.
En réponse à tout cela, conclut le chef de la police Martin Mbarga Ngele, le gouvernement a décidé de recruter 20 000 policiers et soldats pour rétablir la sécurité dans le nord du pays.
Le chef de l'État vient de décider le recrutement cette année de 4 700 policiers. Et la même chose sera faite l'année prochaine. Ces recrutements qui vont se faire bientôt, je crois dans les prochains jours, je vais publier les avis d'ouverture de ces concours, permettront non seulement un recul du chômage de nos jeunes, mais également le renforcement de nos mesures de sécurité.
Le Cameroun échange des renseignements avec le Nigeria, le Bénin, le Tchad et le Niger et travaille également avec les États-Unis, la France, la Chine et l'Allemagne dans un nouvel effort régional africain contre les extrémistes armés.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique 93.1 FM, notre fréquence à N'Djamena. Au Mali, le projet d'accord pour la paix et la réconciliation proposé par la médiation est une avancée vers la conclusion d'un accord de paix. C'est tout du moins ce qu'ont laissé entendre les représentants du gouvernement, tout en signalant tout de même des ambiguïtés dans le projet concernant des questions importantes. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Le gouvernement malien partage les grandes lignes du projet d'accord pour la paix et la réconciliation remis par la médiation aux différentes parties prenantes au pourparler d'Alger. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité des personnes âgées et de la Reconstruction des régions nord.
Qu'il s'agit essentiellement d'un document de base pour la négociation. Ce n'est pas un document consensuel sur l'étape de la négociation qui vient de s'achever. Mais il est différent du document précédent en cela que, d'abord, il est l'entame d'un processus de négociation effectif.
Le ministre Konaté fera savoir qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans le document.
Vous verrez qu'à certains moments, on dit État au singulier, à d'autres moments, on dit État au pluriel dans le même document. On parle de région intégrée. Il se trouve que ça fait partie des points pour lesquels des questions ont été posées et des désaccords ont été exprimés. Mais le fait d'avoir dans le document région au pluriel et région au singulier, c'est une ambiguïté.
Les différentes préoccupations liées à l'élection d'un député qui est de 60 000 habitants pour les régions du sud et 30 000 pour les régions du nord a été élucidé par le ministre Ousmane Sy, ministre de la décentralisation et de la ville.
Le problème n'est pas la taille de la population pour élire un député. Le problème est le système électoral parce que nous avons aujourd'hui un système électoral qui est majoritaire. Les diversités ont du mal à être perçu. Ça, ce n'est pas au nord simplement, c'est sur tout le territoire. Comment nous allons promouvoir un système électoral qui permette l'expression de plusieurs minorités? Ça, c'est une question qui concerne l'ensemble du Mali.
Pour le ministre de la Réconciliation nationale, la signature d'un accord de paix à Alger n'est pas synonyme à un retour à une paix définitive. Zabi Ould Sidi Mohamed.
Il y a une autre guerre que tous les Maliens doivent engager. C'est la guerre contre le terrorisme. Et ça, personne ne la fera à notre place. Ce serait l'armée malienne dans tout toutes ces composantes une armée nationale. Maintenant, ceux qui sont des éléments à problème, mais il faut leur appliquer le règlement, qui qu'il soit. Mais parce que ce territoire aujourd'hui, il est occupé par des forces que vous avez vues ne seront pas faciles à déraciner.
Lors de la prochaine étape prévue au mois de janvier à Alger, il s'agira pour les participants de paraffer les pré-accords avant sa signature au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans son rapport détaillé sur la corruption publié hier mardi, l'OCDE remet en cause l'idée selon laquelle seuls les pays en développement seraient concernés par la corruption d'agents publics lors de la signature de contrats internationaux. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, la corruption frappe durement les pays développés. Par ailleurs, Transparency International a publié ce matin son indice annuel de perception de la corruption. C'est pour constater que les pays africains n'ont pas progressé depuis la publication du dernier indice il y a un an. On écoute Chantal Ouimana, directrice pour l'Afrique à Transparency International.
Malheureusement, c'est ça en fait le constat que je dois faire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement en termes de perception de la corruption dans les pays africains. Il y a cependant deux ou trois pays où on voit qu'il y a quand même une légère amélioration dans la perception de la corruption, et ça c'est la Côte d'Ivoire, le Mali essentiellement.
Mais en même temps, Transparency International évoque une évolution des mentalités.
Quand on analyse d'une année à l'autre, les changements ne sont pas très visibles. Il faut quand même se rendre compte qu'au fil des années, il y a une conscience plus prononcée des citoyens en général que la corruption constitue quand même une entrave majeure au développement du continent. Et c'est aussi réconfortant de voir que de plus en plus de pays reconnaissent qu'il faut prendre en compte les aspects de lutte contre la corruption et les questions de gouvernance de façon globale. Mais ce qui est quand même triste, c'est qu'il y a quand même encore un niveau élevé d'impunité par rapport aux actes de corruption. Donc c'est ça aussi qui fait que d'un côté, on voit les gouvernements, les États qui prennent des mesures, qui adoptent des lois, mais après, quand il faut les mettre en œuvre et arriver au moment où tous ceux qui sont impliqués dans des actes de corruption sont amenés devant la justice et subissent les conséquences qui devraient en découler, on voit qu'il y a encore du chemin à faire.
Chantal Ouimana, directrice pour l'Afrique à Transparency International, elle était jointe en Allemagne par Camille Grosdidier. Celle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la technique, Rob McLean. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la grande voix de la musique malienne, Fantani Touré, qui s'est éteinte aujourd'hui. Elle interprète ici Doussouda. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.